d'une certaine manière aussi pour le pouvoir algérien, c'était l'opportunité de dire, regardez, on n'est pas une dictature puisqu'on accepte d'avoir un écrivain très critique sur notre sol et qu'on lui fiche une paix, pardonnez-moi cette expression, royale. Bon, ce qui n'avait pas été vraisemblablement mesuré, c'est que ce qui s'est passé avec le Sahara occidental a vraisemblablement changé la donne pour Boualem. Sachant qu'en plus, depuis l'élection de Tebboune, ce que nous disent quand même de bons observateurs de la vie politique algérienne et les opposants, c'est qu'il y a un durcissement de la répression,
ouais,
qui s'est considérablement accentué, à la fois vis-à-vis des intellectuels, mais vis-à-vis aussi de certains militants, parfois
répression sur l'opinion. Politique.
Oui, répression sur l'opinion publique et sur l'expression de l'opinion.
D'ailleurs, je crois qu'on découvre en partie avec le cas de Boualem Sansal que d'autres détenus franco-algériens.
Alors, il y a d'autres. Oui, vous avez raison de le dire. Il y a d'autres détenus franco-algériens. Je ne saurais pas exactement vous donner le chiffre, mais il y a, je crois, à peu près plus de 300 prisonniers d'opinion aujourd'hui en Algérie, voire plus.
Arnaud Benedetti, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être chez nous. Alors, vous êtes un politologue, un écrivain, régulièrement chroniqueur dans les pages de Valeurs Actuelles. Et en ce qui concerne le sujet du jour, vous êtes aussi un ami proche de Boualem Sansal. Vous avez forcément été extrêmement mobilisé et investi durant son année de détention. Ma première question est assez large. Boualem Sansal est libre. Et maintenant, on va où ? Quelle est la phase qui s'ouvre à présent concernant les relations franco-algériennes ?
Écoutez, d'abord, la phase qui s'ouvre pour ce qui nous concerne, c'est celle de Boualem Sansal. Il faut que Boualem Sansal retrouve l'entièreté de son expression, ce qu'il est en train de faire, puisque, comme vous le savez, il est intervenu sur plusieurs médias ces dernières heures. C'est déjà pour nous une grande satisfaction de le revoir plutôt en bonne santé, même si on sait qu'il va devoir avoir quelques examens complémentaires, ce qui est tout à fait normal. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'il retrouve toute sa place dans le débat public, en France et en Europe, parce que c'est une voix rare, parce que c'est une voix importante, parce que c'est une voix qui constitue une voix de lanceur d'alerte. Et ça, je crois que il l'a démontré depuis plusieurs années, tant par ses romans que ses prises de position publiques. Et c'est une voix qui va bien évidemment compter dans la relation franco-algérienne. Alors, pour revenir à votre question plus précisément, la relation franco-algérienne, pour l'instant, est dans une situation d'une très très grande complexité, même si on peut considérer que la libération de Boualem Sansal est un premier tout petit élément d'amorce d'un retour à, si ce n'est un dialogue apaisé, au moins un dialogue d'État à État. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table aujourd'hui entre Paris et Alger, le dossier des OQTF, le dossier des visas, le dossier des accords de 68, le dossier de la coopération en termes de sécurité entre la France et l'Algérie, et bien d'autres dossiers encore. Mais on a là tout un ensemble de sujets qui vont devoir être abordés par les autorités françaises et par les autorités algériennes les uns après les autres. Ce qu'on ne perçoit pas véritablement au moment où je vous parle, après cette libération de Boualem Sansal, c'est le degré de volonté des Algériens de nouer un dialogue qui soit un dialogue un peu plus mature que celui que nous avons pu avoir, notamment ces derniers mois et cette dernière année entre Paris et Alger. Ce qu'on sait, c'est que la situation géopolitique et régionale de l'Algérie est très compliquée. D'ailleurs, c'est vraiment cette situation qui a probablement aidé à la libération de notre ami Boualem Sansal. C'est d'abord que sur le Sahara occidental, l'Algérie a subi une défaite diplomatique importante au Conseil de sécurité de l'ONU il y a maintenant cela 2 semaines, avec notamment le fait que 2 des grands alliés naturels de l'Algérie, que sont la Chine et la Russie, s'abstiennent sur la proposition de résolution concernant le Sahara occidental. Et au-delà de la question, qui est la question évidemment du Sahara occidental, qui est une espèce de totem ou un fétiche très fort pour le pouvoir algérien, il y a aussi les difficultés que rencontre au Mali avec la poussée islamiste l'Algérie. Donc vous avez là, si vous voulez, un contexte régional qui fait que l'Algérie a besoin de retrouver si ce n'est des alliés, mais en tout cas des relations pour sortir de cet isolement. Et le levier Bollem-Sansal en était un, sans doute. Alors on n'a pas remis Bollem-Sansal aux autorités françaises parce que c'eût été vécu récemment par les hiérarques algériens comme une humiliation supplémentaire après notamment la défaite diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU. On l'a remis aux autorités allemandes. On sait que les Allemands ont de bonnes relations avec les Algériens, comme les Italiens d'ailleurs, que le président allemand a manifestement une relation de confiance avec le président algérien. Et en outre, il faut rappeler que Bollem-Sansal, de son côté, est un écrivain qui est particulièrement lu en Allemagne, puisqu'il a obtenu la récompense la plus importante de la littérature allemande, le prix de la paix, il y a quelques années. Donc aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation qui est une situation d'isolement, mais d'un isolement à rompre, ce qui ouvre peut-être une fenêtre d'opportunité pour reprendre des relations entre la France et l'Algérie qui sont un peu plus apaisées. Mais faut-il encore que les Algériens de l'autre côté, que le régime algérien, soient prêts à des concessions sur un certain nombre de dossiers dont on sait qu'ils sont particulièrement épineux à la fois à Paris et à Alger.
Cet isolement dont vous parlez, est-ce que ça place la France dans une situation favorable pour négocier ?
A priori, oui, sous réserve que les gouvernants français aient une vraie volonté d'infléchir le rapport de force que nous impose maintenant depuis très nombreuses années Alger. On sait très bien que sur la question des OQTF, on sait très bien que sur la question des visas, on sait très bien que sur la question des accords de 68, les Algériens, pour l'instant, ne font pas preuve d'une très très bonne volonté, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les autorités françaises n'ont pas réussi jusqu'à maintenant à ramener à une forme de raison les autorités algériennes. Donc, quand on doit dialoguer, il faut être deux. Mais faut-il encore que les autorités françaises ne cèdent pas trop, et ne cèdent pas du tout d'ailleurs, aux autorités algériennes? On a le sentiment parfois que cette position, c'est un peu une position qui vise à intérioriser une espèce de culpabilité morale vis-à-vis d'Alger, qui est savamment entretenue, il faut le rappeler, par le régime algérien, mais que cette culpabilité morale, aujourd'hui, nuit manifestement aux intérêts de la France, et nuit aussi aux relations que nous devrions avoir normales, hein, d'État adulte à État adulte, entre Paris et Alger. Je note d'ailleurs que Bollem-Sansal, dans ses différentes interviews, va appeler à une réconciliation entre la France et l'Algérie, mais en disant clairement que, en tout cas le disant implicitement ou en creux, compte tenu des limites qui sont quand même celles de son expression en regard d'abord du cas de Christophe Glaize et aussi de la relation franco-algérienne en ce moment, il en appelle récemment à un effort du côté algérien pour laisser de côté un certain nombre de diktats, notamment les diktats mémoriels qui n'ont vraisemblablement plus lieu d'être 70 ans après l'indépendance de l'Algérie.
Et parmi ses récentes prises de position depuis son retour au pays, qu'est-ce que vous retenez de son récit de la détention? Est-ce qu'il y a des détails qui vous ont marqué de son témoignage en prison pendant un an?
Plusieurs éléments. Il explique d'abord très clairement que s'il a été arrêté au mois de novembre 2024, c'est en raison de la détérioration de la relation entre Paris et Alger, et notamment du fait que le revirement de position diplomatique de la France sur le Sahara occidental, qui a été initié, faut-il le rappeler, par le président Macron, a été considéré comme une humiliation pour les Algériens, et que la réponse que le pouvoir algérien a apportée, ce qu'il vivait comme une offense quasiment existentielle à sa position, c'est l'arrestation de Bollem sur le tarmac de l'aéroport d'Alger le 16 novembre dernier. Ensuite, il rentre dans le détail, évidemment, de la façon dont cette arrestation s'est déroulée, la façon dont son incarcération s'est inscrite quand même dans la durée, une année. Il explique très bien que la mobilisation, et ça c'est un point très important, et qui, du côté, évidemment, au niveau d'un comité de soutien, est quelque part réconfortant, c'est que, il le dit, je crois, dans le Figaro, mais il le dit aussi sur France Inter, qu'il a compris que la mobilisation dont il a entendu parler dans les prisons algériennes, puisqu'ils ont dit, mais tu sais, les détenus algériens disaient, bon, ça, tu sais, tu es devenu une légende. Et que cette mobilisation l'avait protégé, y compris dans son incarcération, puisque très rapidement, quand Le pouvoir algérien a vu cette mobilisation monter en France et en Europe. Il a quand même changé un peu le régime carcéral de Boualem Sansal. Donc il est tout à fait conscient que l'effort qui a été mené en France et aussi parfois en Europe lui a été utile, non seulement pour le protéger, et on l'espère bien, ensuite pour le faire libérer.
Mais alors justement sur ce surnom, la légende, je comptais en parler plus tard, mais vous venez de l'évoquer, le fait que des Algériens le surnomment comme ça, parce que donc, selon ce qu'il dit, ça voulait dire, la légende, c'est un opposant au régime qui a l'appui de l'Europe, de la France, des États-Unis, de la planète Mars, donc il y a un peu d'ironie aussi là-dedans, c'est-à-dire que pour certains Algériens, Boualem Sansal est un héros, c'est quelque chose qu'on découvre un petit peu maintenant. On savait déjà que sa position
non,
était...
Non, Boualem Sansal, d'abord, était assez peu connu en Algérie. Bon, ses livres, d'ailleurs, étaient édités hein, et publiés, il l'a dit. Hein. Alors, pas tous, certains ont été censurés, mais certains nombres. Boualem Sansal a été, pendant des années et des années, considéré par le régime algérien comme une figure qui était, en effet, une figure critique du régime algérien, qui pouvait tenir des positions extrêmement déterminées et parfois très virulentes vis-à-vis des gouvernements algériens et, j'allais dire, des 60 ans ou des 70 ans d'indépendance algérienne, remettant en cause le récit ou la mythologie nationale issue de la guerre de libération. Mais on lui laissait un minimum d'espace de liberté parce que, d'abord, on considérait que sa parole avait peu d'écho dans la société algérienne. Il y avait une forme de mépris, me disait-il, que pouvaient exprimer les hiérarques algériens vis-à-vis de son travail et de son œuvre, même s'il s'était opposé avec eux jusque dans sa vie professionnelle, parce qu'il faut rappeler qu'il était un haut fonctionnaire quand même de l'État algérien, il a été directeur général de l'industrie. Et ensuite, il me l'avait très souvent dit, moi, quand je lui posais la question de savoir « Mais qu'est-ce que tu fais encore à retourner en Algérie compte tenu des positions que tu prends contre les gouvernements algériens ?» Il me disait « De toute façon, ils me méprisent totalement, ils sont totalement indifférents à ce que je peux écrire et ce que je peux dire, et au pire, ils me considèrent comme un vieux fou. » Donc il avait cette perception, finalement, de n'avoir aucun risque, non pas parce qu'il était protégé par son statut d'écrivain, mais que d'une certaine manière aussi, pour le pouvoir algérien, c'était l'opportunité de dire, regardez, on n'est pas une dictature, puisqu'on accepte d'avoir un écrivain très critique sur notre sol et qu'on lui fiche une paix, pardonnez-moi cette expression, royale. Bon, ce qui n'avait pas été vraisemblablement mesuré, c'est que ce qui s'est passé avec le Sahara occidental a vraisemblablement changé la donne pour Boualem. Sachant qu'en plus, depuis l'élection de Tebboune, ce que nous disent quand même de bons observateurs de la vie politique algérienne et les opposants, c'est qu'il y a un durcissement de la répression qui s'est considérablement accentué, à la fois vis-à-vis des intellectuels, mais vis-à-vis aussi de certains militants, parfois
répression associatifs sur l'opinion. Politique.
Oui, répression sur l'opinion publique et sur l'expression de l'opinion.
Mais d'ailleurs, je crois qu'on découvre en partie avec le cas de Boualem Sansal que d'autres détenus franco-algériens.
Alors, vous avez raison de dire, il y a d'autres détenus franco-algériens. Je ne saurais pas exactement vous donner le chiffre, mais il y a, je crois, à peu près plus de 300 prisonniers d'opinion aujourd'hui en Algérie, voire plus, sans compter tous ceux qui ont été incarcérés, mais cela pour des faits particulièrement graves, notamment des faits de terrorisme islamiste, puisqu'il le dit d'ailleurs qu'il a été incarcéré dans une aile de la prison où étaient emprisonnés des terroristes, soit du GIA, soit de Daesh, qui avaient parfois pour certains d'entre eux un lourd passif criminel.
Ce dimanche, vous étiez sur CNews, sur ce même sujet, et vous expliquiez que Boualem Sansal ne peut pas dire ce qu'il pense. Dans quelle mesure est-ce que sa parole est contrainte et contrôlée ?
Oui, alors c'est lui-même qui me l'a d'ailleurs dit. Il est tout à fait conscient que son expression, pour l'instant, est contrainte, en raison d'abord du cas de Christophe Glaise, hein, le journaliste sportif, dont le dossier reste en instance et qui doit être jugé le 3 décembre prochain et dont on espère bien évidemment la libération la plus rapide. Et ensuite parce qu'on voit bien qu'on est dans un moment particulier de la relation franco-algérienne où malgré tout on espère du côté français qu'on va réamorcer un premier dialogue avec Alger et que Boualem Sansal intériorise la responsabilité de la parole qui est la sienne dans la crise que vient de vivre, évidemment, la relation franco-algérienne. Il sait qu'il a été un élément de crispation, de cristallisation, d'acmé presque de cette crise. Il ne souhaite pas, maintenant qu'il est libre, vraisemblablement, être un facteur de blocage dans la possibilité qui consiste à renouer un dialogue. Ceci dit, ce qu'il faut quand même noter, c'est que au-delà de cette expression qui est quelque part contrainte, et dont d'ailleurs il nous a dit au micro des différents journalistes qui l'ont interviewé qu'il la vivait comme telle et qu'il était obligé de contrôler ses mots, il l'a dit explicitement. Au-delà de cette limite, on peut considérer que dans les interviews qu'il a données, tant sur les médias du service public qu'au Figaro, il a quand même dit un certain nombre de choses. D'abord, il n'a en rien renoncé à, j'allais dire, son argumentation critique vis-à-vis du pouvoir algérien. Il a surtout décrit la dureté de ce pouvoir. Et les échecs de ce pouvoir. Donc déjà, il dit quand même beaucoup de choses. Et il ne renonce en rien, encore une fois, à cette position critique. Après, il a dit d'autres choses qui, pour le coup, sont plus en résonance vis-à-vis de notre vie politique nationale, où il a dit qu'il était un homme libre, qu'il avait des amitiés partout, quand on lui dit « mais vous avez été instrumentalisé par l'extrême droite », il répond qu'il a des amis, en effet, au Rassemblement national, et que de toute façon, il ne juge pas les gens au trébucher de leurs orientations politiques ou de leur appartenance partisane. Et c'est vrai, bon, pour bien connaître Bollem, c'est quelqu'un de très libre d'esprit, de très indépendant, qui est tout sauf sectaire. Il a infirmé le fait, c'est intéressant, je trouve. Vous savez qu'à un moment donné, on a laissé entendre, et le comité de soutien d'ailleurs s'était opposé à cette interprétation, qu'il refusait l'initiative visant à lui faire remettre le prix Sakharov parce qu'elle était portée par le groupe des patriotes au Parlement européen. Il a infirmé ce que certains ou ce que d'aucuns lui faisaient dire sans aucune autre preuve que finalement des intentions qui n'étaient pas les siennes.
Mais alors toujours sur sa parole et sur sa liberté d'expression actuelle, il a aussi dit qu'il avait encore un peu peur pour ses proches et sa famille, c'est ce qu'il expliquait sur France 2, je crois. Il y a un autre élément peut-être dont on peut parler, c'est la manière dont Boulem Sansal est encore un enjeu diplomatique. Est-ce que le Quai d'Orsay influe sur sa liberté d'expression, sur ce qu'il peut raconter ou non? Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte?
Bon, moi, j'ai eu une longue conversation avec lui, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Mais ce qu'on peut penser quand même, malgré tout, c'est qu'un certain nombre de choix qui ont été faits depuis 10 jours, cette espèce de, quand même, apparente mise sous cloche de Boulem Sansal depuis son retour, qui est quand même une chose assez unique dans l'histoire des otages. Alors si, parfois, il y a des otages parce qu'ils ont, des liens avec les services et qui sont ceux-là débriefés, évidemment. Mais là, ce n'est pas le cas avec Boulem Sansal. C'est vrai que de mémoire, d'histoire d'otages, revenant d'un pays où ils étaient embastillés, finalement, cette mise en réserve de la personne de retour en France, finalement, cette mise en réserve est assez unique. Quand on discute avec des journalistes ou des gens qui sont habitués à ce type d'affaires, ils vous disent qu'en effet, là, on a quand même quelque part quelque chose d'assez inédit. La réalité, c'est que de toute façon, si vous voulez, c'est une personnalité très forte et que tout cela va se décanter. Et qu'il va retrouver assez vite, j'allais dire, une expression totalement indépendante. Ce qu'il a déjà quand même, il faut le reconnaître, il a quand même pu s'exprimer et encore dire beaucoup de choses. Tout cela peut-être prendra du temps, mais on peut penser qu'on a besoin d'avoir cette parole. Si vous voulez, quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu, quelqu'un qui représente ce qu'il représente, quelqu'un qui défend des positions qui sont des positions absolument essentielles et quasiment existentielles pour des sociétés comme les sociétés occidentales, c'est-à-dire des sociétés libres, quelqu'un qu'on ne peut pas, si vous voulez, mettre en réserve ou mettre sur pause. Sa parole est attendue. Il faut être à la hauteur de la figure qui est la sienne, c'est-à-dire une figure de dissident. Je ne crois pas que l'on ait demandé, toute chose étant égale par ailleurs, à Solzhenitsyn, quand il est revenu du goulag et qu'il a pu mettre le pied sur le sol occidental, qu'on lui ait demandé de se taire à l'époque. Au contraire, sa voix a été très forte et tonitruante. Bolem Sarsal aussi doit pouvoir nous dire les choses telles qu'il les pense, telles qu'il les vit, telles qu'il les perçoit, parce qu'on en a besoin dans le débat démocratique. Et ça serait à l'honneur maintenant d'une démocratie, quand bien même il y a en effet des sujets diplomatiques, de ne pas le contraindre trop longtemps et outre mesure.
Alors je voudrais zoomer sur un aspect de sa trajectoire et donc de sa détention en Algérie. Il en a parlé et peut-être que vous faisiez référence à ça quand vous expliquiez que Bolem Sarsal avait quand même avait parlé depuis son retour et s'était exprimé sur des points assez précis et peut-être sur des points un peu assez brûlants. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'est sur la place de Bruno Retailleau dans cette affaire. Il a dit il a dit chez Laurent Delahousse que l'ancien ministre de l'Intérieur, d'une certaine manière, avait été un obstacle à sa liberté. Il développe ensuite, c'est évidemment plus nuancé.
Beaucoup plus nuancé.
Oui. Vous, quelle lecture vous faites du rôle de Bruno Retailleau dans cette histoire ?
Vous savez, le comité de soutien, lorsqu'il était en pleine bataille pour la libération de Bolem Sarsal, disait qu'il faut utiliser tous les leviers. Le levier diplomatique, le levier de la fermeté et le levier international. Nous n'avons jamais été opposés à l'exercice du levier de la fermeté. Mais force est de constater que, de toute façon, ce levier n'a jamais été utilisé. C'est-à-dire, le narratif, comme l'on dit aujourd'hui, qui s'est installé depuis quelques jours, selon lequel c'est le levier diplomatique, la diplomatie de la retenue qui l'aurait emporté sur la politique de fermeté, ne résiste pas à l'examen des faits, puisque aucune mesure véritablement de fermeté n'ont été prises pour justement infléchir le rapport de force. Je me souviens très bien que nous, on a rencontré plusieurs fois les gens du ministère de l'Intérieur durant ce moment. Et très souvent, on leur disait, nous avons par exemple, sans s'attaquer aux accords de 68, sans forcément s'attaquer à une réduction drastique des visas, vous avez des moyens d'agir en identifiant et en ciblant un certain nombre de dignitaires algériens qui ont des intérêts familiaux et voire économiques en France, et dont certains ont d'ailleurs été impliqués dans la constitution du dossier à charge contre Bolem Sarsal. On avait des noms. On savait très bien où ils étaient, on savait très bien ce qu'ils faisaient. Et aucune, encore une fois, mesure de contrainte et de restriction, un tant soit peu coercitive, n'a été prise. Donc, si vous voulez, on a là l'exemple même que, non, il n'y a pas eu de politique de bras de fer. Il y a eu des intentions, il y a eu une communication, il y a eu une expression, mais il n'y a jamais eu de mise en œuvre, tout simplement parce que les services de l'État n'étaient pas alignés, parce que le gouvernement n'était pas, j'allais dire...
Clair
et n'était surtout pas favorable à cette politique de fermeté, à l'exception du ministre de l'Intérieur. Donc déjà, ça, il faut vider cette idée que ça a été un obstacle. Ensuite, force est de constater que, bon, si l'on va au fait, ce qui a permis à un moment donné cette libération, c'est le contexte international que je vous ai décrit, la fenêtre d'opportunité constituée par ce contexte international de l'Algérie, isolé sur la scène internationale, et le fait que les Allemands ont joué un rôle majeur de médiation. On parlait déjà de la médiation des Allemands, il faut s'en souvenir, quasiment au moment ou au tout début de l'arrestation et de l'incarcération de Bolem Sarsal. On en parle déjà fin décembre, ce n'est pas une nouveauté, si vous voulez, la piste allemande. C'est quelque chose qui a été une constante depuis plusieurs mois, de même que la piste italienne ou que la piste du Vatican. Ensuite, sur la réponse à la question qui a été posée à Bolem Sarsal, il l'a beaucoup plus nuancé que les reprises de presse ont voulu le formuler. Et d'ailleurs, il dit que de toute façon, les Algériens cherchaient n'importe quel prétexte ne pas le libérer et que de toute façon, la politique dite de retenue Jean-Noël Barrot ne les persuadait pas plus de le libérer. Donc, si vous voulez, on voit bien que là, il est quelque part très prudent dans son expression, quand bien même a-t-on voulu lui faire dire que M. Retailleau avait joué le rôle du méchant qui avait empêché sa libération. On voit bien que derrière cela, il y a une instrumentalisation à peine dissimulée, politique, pour finalement essayer de légitimer un récit qui, objectivement, quand on connaît l'affaire de l'intérieur, ne résiste pas beaucoup à l'examen des faits.
Bien sûr, et puis pour être tout à fait clair, dans la suite de sa déclaration, Boulem Sansal dit Bruno Retailleau ou un autre, c'était la même chose.
Donc, très clairement. Voilà.
On arrive à la fin de cet entretien, on finira sur une note peut-être plus personnelle. Vous ne l'avez pas encore revu, Boulem Sansal, je crois que vous l'avez eu une fois au téléphone. Vos retrouvailles approchent d'ici quelques jours, qu'est-ce que vous attendez de vous retrouver?
Écoutez, nous, on va le voir très vite, là, hein, dans quelques jours, dans peu de jours, même, presque quelques heures, avec le noyau dur du comité de soutien et quelques amis qui nous ont aidés durant cette longue année, trop longue année. Nous, on est très heureux de le revoir parce qu'on est ses amis et que, j'allais dire, son absence nous pesait. On va pouvoir lui dire toute l'admiration et toute l'affection qu'on a pour lui. Et puis aussi lui dire un peu comment les choses sont passées, parce que Boulem Sansal n'est pas au courant, j'allais dire, dans le détail de ce que nous avons vécu ces derniers mois. Et surtout, on a hâte de l'entendre à nouveau, encore une fois, et de le lire aussi, parce que j'imagine que après une année d'épreuves comme celle-ci, il revient avec une force de conviction et une force d'inspiration encore peut-être plus grande que celle qu'il avait et qui était déjà grande avant qu'il ne soit embastillé en Algérie. On pense quand même, on le dit à tous ceux qui sont embastillés en Algérie et évidemment particulièrement à notre compatriote Christophe Glaize, dont on espère que bientôt il pourra retrouver le sol de France et sa famille.
Merci beaucoup.
Merci à vous.